Des livres plein les oreilles. Les semaines passent vite quand même. Déjà une nouvelle émission des livres plein les oreilles, animée pour vous par Clotilde Seil sur les ondes de Canal M. Et comme toujours, je suis entourée par du bien beau monde. Il est déjà au téléphone, on va le retrouver dans quelques secondes. C'est Bernard Tremblay. Avec lui, il sera question de géographie. Elle est déjà en studio et avec elle, il sera question d'amour. Mais d'amour, hein? Et puis même un petit peu d'amour aussi avec Aline Apostolska. Bonjour Aline.
Bonjour Clotilde.
Et puis en seconde partie, nous aurons un autre Tremblay qui lui va nous parler d'un magnifique polar. C'est Jacques Tremblay qui sera là. Et il y aura une chronique des nouvelles et des livres. Il sera question de Louis-Ferdinand Céline. Et puis il y aura aussi la bande-annonce de la semaine prochaine. Je peux déjà vous annoncer que c'est Alain Lefebvre qui sera en notre compagnie. Et lui, il vient tellement rarement à Montréal que quand il passe, j'aime mieux vous dire qu'il faut l'attraper et vite fait. Il y aura aussi des titres en rafale. Enfin bon, bref, voilà. C'est l'émission des livres plein les oreilles qui commence. Bonjour Bernard.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va?
Ah, ça va très bien, et vous-même?
Très très bien. Dites-moi mon petit Bernard, je ne savais pas que la géographie c'était aussi un sujet qui vous intéressait à ce point.
Ah, moi c'est un défaut qui peut être une grande qualité, ou inversement, je suis curieux de tout.
Oui, bien je vois ça.
Et moi qui ai pris le chemin des comptes il y a quelques années.
Oui.
Alors, quand j'ai vu qu'on avait suggéré à M. Louis-Edmond Hamelin de... que la géographie, ça passait d'abord par les pieds. J'ai dit, ah, tiens, il y a une piste à suivre.
OK.
Trop facile.
Oui, il y a une piste à suivre, OK. D'accord, mon petit Bernard.
Moi, nous sommes mercredi, donc je reviens ce matin de mon groupe de marche à Longueuil, où les bernaches sont arrivés.
Ah, ça y est.
Et oui, les bernaches, les outardes, comme on dit.
Bien sûr.
Et en plus, on a croisé un petit faon.
Oh,
c'est ça... le printemps.
Mais oui, c'est le printemps.
Vrai, là.
Mais oui, enfin. C'est sûr, c'est le printemps. Ma chienne se gratte, ce sont les allergies saisonnières qui commencent. Je suis désolée, c'est beaucoup moins romantique. Mais c'est une forme de réalité aussi.
Alors, ce qui m'amène à Louis-Edmond Hamelin, qui est né un 21 mars.
Ah ben.
En plus.
Franchement.
Tout est dans tout.
Oui. Comme vous dites ça bien, moi j'aurais pas osé le dire parce que je l'aurais pas dit aussi bien. L'âme de la Terre, parcours d'un géographe, de Louis-Edmond Hamelin.
Donc c'est une forme de biographie, d'autobiographie si on veut.
Oui.
Juste un mot d'avertissement. Monsieur Hamelin est quelqu'un d'extrêmement organisé, très cartésien. Mm-hmm. Donc l'ouvrage est découpé en sections où il y a beaucoup de mentions, d'énumérations, de listes. D'événements, d'activités et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est parfois un peu sec à lire, mais au travers, il y a sa pensée qui ressort.
OK, mais c'est-à-dire que, est-ce que, de vous à moi, là, est-ce qu'on peut sauter un petit peu ces pages-là? Ou on ne doit pas rater grand-chose, si on peut?
On peut, ou on peut y aller aussi par en suivant les thèmes.
Ah oui, OK. Qui sont?
Lui, il a très, très cartésien. Il a extrêmement bien découpé tout ça. Il y a la famille, la formation, l'expérience de travail, l'expérience langagière.
Oui,
car
Monsieur
Hamelin est entre autres géographe, mais aussi linguiste.
Ah, OK.
Et économiste.
OK. Je vous avouerai mon inculture totale. Je ne connais pas Louis-Edmond Hamelin. Pourriez-vous éclairer ma lanterne et peut-être celle de ceux qui nous écoutent?
J'étais dans la même inculture que vous.
Oh, phew. Alors, vous m'assurez, parce que je me suis dit, je suis en train de rater quelque chose.
Il est né en Mauricie dans les années 20, dans une ferme où il y avait à prendre soin des animaux, ce qui l'intéressait moins, et à travailler la terre, ce qui l'intéressait plus. Arrive à l'école et dans le dictionnaire, curieux, il regarde qu'est-ce qu'on dit sur le chemin de rang, là où il vit. Et ça n'est pas là.
Ce n'est même pas un rang, c'est un chemin de rang.
Un chemin de rang. Mais ni au mot « chemin » ni au mot « rang », il y a quelque chose qui correspond à la réalité qu'il connaît.
Mm-hmm.
Donc, ça a été un des points de départ de sa démarche qui l'a emmené dans ses études jusqu'en France, à Grenoble.
Oui.
Ça doit être beau par là.
Oui. C'est une ville un petit peu... un petit peu étouffante à mon goût parce qu'elle est vraiment encavée dans les montagnes.
Ah, ben voilà.
Grenoble. Alors, quand vous êtes à Grenoble, là, quelle que soit la fenêtre par où vous regardez, vous voyez ces montagnes qui sont un peu plus hautes que le Mont-Royal, voyez-vous.
Ah bon?
Et, voilà, ce sont les Alpes. Alors, et c'est, moi, je sais que j'ai un petit peu de mal, mais la ville est belle, bon, très bien, mais oui. Moi, j'ai un petit peu de mal à vivre.
Non, moi, je suis d'accord avec toi. Hein, j'ai c'est... beaucoup de mal. Ça dépend des gens qui aiment la montagne.
Oui, c'est ça. Il faut l'aimer beaucoup parce qu'il y a des endroits où il faut carrément se pencher pour voir le ciel. Quoi.
Mais oui, ils s'en vont généralement sur la montagne.
Oui, c'est ça, exactement.
Bien, justement, non seulement il faut aimer, mais en plus, c'est là qu'il a trouvé l'amour.
Oh.
Il a rencontré Colette. Et le compteur en moi, quand il a vu son nom de famille, Colette la fée.
Oh.
Oui.
Oh.
Et ils sont retournés souvent parce qu'elle avait de la famille dans la région et ils ont fait de la randonnée en haute montagne.
Voilà. Mmh. Ah. Je te dis, ils grimpent sur la montagne.
Ben c'est ça, ils grimpent sur la montagne. Ben oui.
S'élever vers le ciel.
Bon.
Donc après ses formations, il est revenu ici. Il a eu carrière comme professeur.
Avec Colette?
Oui, ah elle bon. Aussi, elle a enseigné. Ils étaient dans la région de Québec.
OK.
Je vais sauter quelques étapes. Il a été recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières pendant quelques années. Mais surtout, il a participé, il a mis en pratique ce qu'on dit souvent, la géographie, ça passe par les pieds. Alors, il a chaussé des bottes de randonnée, il a arpenté le territoire du Québec.
Ah oui.
Parce que le Québec, nous, on le connaît du sud et un peu plus du sud, mais tout le reste, le nord, c'est loin.
Oui.
Mais c'est très grand chez nous.
Oui. Tous ces coins qui sont abandonnés, d'ailleurs, où il y a quand même encore des gens qui vivent et qui sont abandonnés complètement.
Alors, cet homme d'études supérieures intellectuelles, c'est très clair en le lisant, mais qui s'est rendu à la baie de James en canot.
Ah oui?
Oui, le territoire, il l'a exploré, il l'a arpenté, il l'a vécu.
Ah oui, pour vrai.
Mais en plus,
là.
Il était attentif non seulement à ce qu'il y avait sous ses pieds, mais ce qui l'entourait, et entre autres les gens qui occupaient le territoire. Donc, une grande, grande sensibilité chez lui vis-à-vis des Premières Nations.
Okay,
quand on a voulu développer la baie de James et compagnie, le gouvernement l'a appelé comme conseil, puis il a dit « Ah, c'est bien beau votre projet, mais avez-vous pensé aux Cris et aux Innus et aux Inuits? » Puis là, il y a eu des visages, des regards absents devant lui. Mais ça a amené à développer certaines choses. Il a fait une belle suggestion, malheureusement, qui n'a pas encore été retenue, après seulement 40 ans, de créer un ministère du Nord.
Ah oui.
Ça serait bien à la grandeur du territoire qu'on a ici.
Très bonne idée. Ça me semblerait, oui, être la moindre des choses.
Oui.
C'est un autre plan Nord, ça.
Oui, il a contribué à enrichir notre langage. Bon, lui, le terme qui revient souvent, bien sûr, qu'il a créé, c'est la nordicité.
Hein? Oui.
Cet état, ce milieu dans lequel on vit, on baigne, on grelotte ou on gèle.
Il a même écrit un bouquin qui s'appelle comme ça, hein?
Oui,
Nordicité
pour laquelle
québécoise.
Il a reçu un prix du gouverneur général en 75 ou 76.
76, oui.
Ouais. Mais il a aussi amené dans notre langue plein d'autres mots, entre autres le pergélisol, qui est très à la mode dans cette période de réchauffement climatique.
Qu'est-ce que c'est, le...
C'est le pergélisol. C'est le sol au nord, la terre comme telle.
Ah.
Qui est perpétuellement gelé.
Moi, je connaissais le permafrost. C'était
le comble de
ma connaissance.
Oui, c'est ça. Lui, il est arrivé en Europe, puis il a vu le langage européen associé au froid.
Bon.
Mais il y avait beaucoup de termes il n'y avait aucun terme pour décrire beaucoup de nos réalités d'ici. Donc, lui, il mentionne un peu plus de 200 néologismes.
Oui.
Dans un article que je suis allé consulter, on parlait de 600 néologismes. Par exemple, vous savez que nous habitons tous l'hivernie, tous ces pays qui sont touchés par l'hiver.
Ah oui?
Oui.
C'est bien beau.
Oui. Un mot que j'ai trouvé un peu particulier, mais qui est bien.
Mais alors, comment on nomme les gens qui aiment le sud?
Ah.
Oui.
Des frileux.
Des
frileux.
Elle est bonne, Bernard.
Ça, c'est pas vrai. Je suis pas frileuse du tout, mais...
Elle est bonne. Mais alors, dans là, je pense à un paquet de mots. Par exemple, la vilainie. Alors, c'est ça, c'est le pays des vilains.
Ah, je connais pas ça, moi.
Hein? Ben non, si c'est vrai, en plus, ça existe, par exemple.
Ben oui, ça existe, la Vilénie.
Ben oui.
Bon. Non, non, mais c'est intéressant, parce que là, comment vous avez dit, là, le premier mot, avec le sol?
Le pergélisol.
OK, donc ça, alors, mesdames et messieurs, ce n'est pas un produit pour, comme le Murphy, genre, pour nettoyer vos planchers.
Pour nettoyer vos
sols. Ça n'a rien à voir.
Mais alors, ce que je dirais peut-être pour conclure autour de son autobiographie, d'après moi, c'est un excellent point de départ pour, selon nos intérêts
pour arriver
spécifiques, pour aller ailleurs, pour découvrir un peu plus son œuvre, voir ses textes, voir son implication, parce qu'il était bien impliqué, entre autres pour représenter les gens des Premières Nations.
Oui.
C'est important de penser, c'est bien beau, le plan Nord, mais le plan Nord, il y a déjà du monde.
Et c'est ça, exactement.
Et aussi la nature. La nature, faut y faire attention, faut l'écouter. Car quand on l'ignore trop longtemps...
Ben oui, elle se rebelle.
Et voilà.
Elle se rebelle, bien sûr.
Ouais.
On est toutes pareilles, nous. Hein? C'est pas,
L'inhumain.
Oui, non, mais exactement. Mais écoutez,
surtout l'inhumaine.
Oui, mais vous savez, Bernard, je vous remercie beaucoup parce que bon, là, on est parti un petit peu à plaisanter, peut-être d'ailleurs un petit peu bêtement, mais c'est vrai que ce monsieur Hamelin me semble aussi immensément important pour en savoir un peu plus sur ce grand pays que nous habitons. Et Dieu sait si nous le connaissons mal. Et je trouve qu'il est important de relire la parole de ces gens comme ça qui sont nés dans les années 20 et qui ont... Hein, et qui ont écrit tant de choses. En plus, à une époque où on n'avait pas tous les réseaux sociaux et tout ça, et donc, il fallait prendre son canot et son courage à deux mains, surtout pour monter jusqu'à la baie James.
Une dernière chose.
On descend ou on monte à la baie James?
Une dernière chose pour montrer la distance qu'on a parcourue dans le 20e siècle. Pour payer ses études, à chaque mois au collège où il allait, son père allait dans la terre à bois, abattre des arbres pour les vendre à la scierie.
Imaginez.
On va faire des planches.
C'est fou, hein?
Ouais.
Eh bien, écoutez, Bernard, on va rappeler le titre de ce livre, « L'âme de la terre, parcours d'un géographe » de Louis-Edmond Hamelin, avec un H, H-A-M-E-L-I-N. Et c'était présenté aujourd'hui pour vous sur les ondes de Canal M par Bernard Tremblay.
Alors.
Merci beaucoup, Bernard.
Je vous en prie, Clotilde.
Alors, au plaisir, peut-être, c'était peut-être la dernière de la saison avec vous, mais allez savoir.
Ah, j'allais dire à tout bientôt, mais
Mais peut-être.
Peut-être.
Ça me ferait toujours plaisir, vous le savez.
Avec des si.
Oui, mais non, mais vous savez à quel point ça me fait toujours plaisir de vous avoir à l'émission. Bonne fin de journée,
plaisir
Bernard.
Plaisir partagé, Clotilde.
Ah, c'est gentil. Allez, au revoir.
Au revoir.
Aline Apostolska, bonjour.
Bonjour Clotilde Seil, ravie de vous retrouver.
Comment va d'abord le cœur? Le cœur, il va bien?
Le cœur va bien, les poumons aussi.
Les poumons aussi.
Les deux choses étant connectées, maintenant je le sais.
Bon.
D'habitude, on n'y pense pas, mais parfois...
Alors, on va en apprendre un petit peu plus, parce que ça n'est pas par hasard si je vous pose cette question-là comme ça en premier. J'ai invité Aline Apostolska pour que nous partagions sur deux livres. Et on va commencer par peut-être le plus intime, et c'est le cas de le dire, parce que c'est quand même dans l'intimité, là, on va quand même assez loin.
La plus totale.
La plus totale. C'est Le cœur bleu. Et c'est pour ça que tantôt j'ai dit « Ah, l'amour », quand il a parlé de cette histoire entre M. Hamelin et sa Colette de Grenoble, on s'est regardé parce qu'on va continuer sur le thème amoureux. Quelle histoire, Aline. Alors bon, roman...
J'aime pas les histoires tièdes, en général.
Ah ben alors, celle-ci, elle était bien brûlante. Hein.
C'est sûr, mais...
Alors, bon, vous savez...
J'en ai une collection dans la vie, mais celle-là, quand même.
Quand même. Vous savez, moi, il y a un mot qui me désespère parce que je trouve qu'il est galvaudé, qu'on l'utilise à toutes les sauces maintenant, c'est le mot tsunami. Vous savez, lorsqu'on est pris comme ça dans une espèce de grande vague déferlante... Mais je trouve que là, ça s'impose quasiment, surtout que lorsque ça s'est passé, vous sortiez au sens propre du terme d'une vague, que c'était pas facile d'en sortir, qui vous a laissé des petits cailloux partout, mais vraiment partout. Lorsque, paf, le coup de foudre.
Absolument, mais ça c'est la première page du livre, j'ai décidé de commencer comme ça, parce que voilà, mais...
Moi aussi. J'ai décidé de commencer l'entrevue par la première page.
Exactement. Ouais. En fait, j'étais en vacances à Cuba tranquillement. C'était pas la première fois que j'y allais. Je donnais un atelier d'écriture là-bas avec un groupe de Québécois et Québécoises. Et bon, j'étais allée déjà plusieurs fois dans des tout inclus, comme on dit, avec mes enfants, etc. Et puis là, cette fois-là, c'était la 2e ou 3e fois, je ne sais plus, que j'y allais pour donner un atelier d'écriture dans un lieu assez privilégié qui est à 16 km de La Havane, qui s'appelle Tarara, et qui est en fait le village de... Enfin, la banlieue de villégiature des riches Cubains et des riches Américains avant 59, et qui a été désertée. Donc, ils ont laissé leurs villas, plus splendides les unes que les autres. Il y a aussi la maison du Che, la maison de l'ex-président, plein de maisons extraordinaires. Et donc, le gouvernement cubain l'a récupéré, c'est gardé avec plage privée. Et il y a un restaurant et une piscine aussi qui sont privées. Et donc, on loue les maisons. C'est uniquement pour louer pour les touristes ou pour les riches cubains d'aujourd'hui ou pour les travailleurs étrangers qui travaillent et puis qui peuvent louer sur place. Bon, et là, il y a... donc quelqu'un qui, enfin un jeune homme qui est là et qui est aussi le DJ, l'animateur, le responsable. En fait, il est responsable des événements spéciaux et des jeux. Et donc, bon, très bien, nous dansons, n'est-ce pas?
Ah oui, alors, parce que vous, c'est vrai que vous adorez danser, Aline.
Ben oui,
parce que c'est vrai que je ne vous ai pas présenté, mais vous êtes aussi journaliste, chroniqueuse, auteur de je ne sais plus combien de bouquins. Et notamment, la danse vous a toujours passionnée.
Absolument.
Vous avez écrit, vous écrivez encore d'ailleurs, des...
Oui,
non, un petit peu moins, des papiers.
Oui.
Alors, je referme la parenthèse, parce que c'est vrai que je vous connais depuis tellement longtemps que j'avais omis
de... J'ai toujours été entre la littérature et la danse.
Et la danse.
Mais textuellement, parce que j'ai aussi beaucoup dansé.
C'est
et
ça.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que 6 semaines avant d'aller à Cuba, j'avais fait changer mes deux hanches. Donc, je ne dansais plus depuis un bout de temps. Et en fait, ce jour-là, ce soir-là, il y a de la musique et je suis sur mon tabouret.
Ah oui.
Et je me dis, le médecin a dit pas avant 6 mois. Et je me dis, faut que le médecin... Bon, finalement, si je descends pas de ce tabouret, je saurais jamais si l'opération a fonctionné.
Okay.
Donc, je descends de mon tabouret et je danse. Et ça dure 3 jours. Et puis, je ne vois pas qui met la musique. Quelqu'un met de la musique, bon, pas mon problème. Et puis, à un moment donné, apparaît une espèce d'immense machin d'1m90 et plus qui me tend la main. Et je ne parlais pas un seul traître mot d'espagnol. Moi qui parle 5 langues, là, j'en parlais zéro. Zéro, zéro, parce que lui ne parle rien d'autre que l'espagnol. Et donc, finalement, très bien, c'est le langage du corps, ce qu'elle veut dire. Voilà. Et en fait, oui, mes hanches fonctionnaient. Très bien. Mais je n'ai pas vraiment cliqué ou quoi que ce soit. Seulement, ça a fait comme un petit chemin dans ma tête. Voilà.
Alors, quand on tombe en amour comme ça avec un Cubain, c'est le début, bon, d'une belle histoire, on
du
va le voir. Mais c'est le début du cliché, absolument, et de la lutte. Et d'une lutte un petit peu permanente. Bon, entre autres, vous venez d'en parler, se faire comprendre, la langue. Alors d'ailleurs, vous dites en page 37, je me dis que ça ne peut pas durer comme ça. Comment vivre en Amérique du Nord et ne pas parler espagnol? Je décide d'apprendre cette langue, la sienne, la langue de notre amour. Depuis quand n'avais-je rien appris de nouveau? J'aime ça. Donc, et c'est vrai que maintenant, donc, vous parlez l'espagnol quasiment couramment.
Oui, très couramment, mais parce que je suis arrivée ici, je me suis inscrite à l'école, oui, absolument. Maintenant, je suis même publiée à Cuba. J'ai des livres traduits à Cuba, j'ai un éditeur, un cercle d'amis, écrivains, etc. Et quant au cliché, je n'ai cessé de me dire, ma pauvre fille, t'es complètement tarée, tu vas tomber dans une histoire comme il y en a des centaines.
Mais oui,
et
tu vas te faire avoir, ce qu'il veut, ce sont les papiers, ce qu'il veut, c'est sortir de son pays.
Ouais. Et en fait, lui, pas du tout.
Non,
parce
c'est ça.
C'est pas du tout sortir de son
non,
pays.
Non, c'est ça.
Il veut pas de papier. Enfin, oui, éventuellement, mais je veux dire, c'était pas du tout la chose. Mais moi, si on se concentre sur moi, oui, bien sûr, c'était le retour de la danse et du désir, en fait, tout simplement.
Oui.
Parce que ça correspondait à mon entrée dans la ménopause et ça faisait des années que alors que je suis plutôt quelqu'un qui était plutôt porté sur la chose, ça avait pas mal disparu. Au point que ma gynéco voulait me donner des hormones.
Ah bah
et
oui.
Je lui avais dit, écoutez, quand je vais avoir envie de quelqu'un, je vais le savoir. Puis là, je l'ai su.
Ah bah oui. Ah ben oui, exactement. Donc, elle a absolument, elle a moins qu'on puisse
alors,
dire.
Alors, tout en oui. même temps. Tout. Le tsunami total.
Dites donc, en plus, la communication, et là, je ne parle pas seulement de la langue, mais là, je veux dire, pour s'écrire, pour se parler, ce n'est pas évident là-bas d'ailleurs.
Ah oui, ben oui.
Je suis page 68. L'impossibilité de communiquer quand on veut, je ne la comprends pas plus. Je refuse de l'accepter. Elle me révolte au moins autant que son impossibilité de sortir de son territoire et de se mouvoir librement où il le souhaiterait, avec ou sans moi. D'ailleurs, vous lui apportez un iPhone. Et puis là, vous lui dites, mais oui, tu vas voir, on va se skyper, tout, machin. Puis il dit, mais ma pauvre chérie, ça a beau être gratuit, de toute façon, ici, ça ne fonctionnera pas, quoi.
Absolument, ça, c'est vrai. Il y a forcément quelque chose qui, là-dedans, me révolte de toutes
ben
les...
Oui.
Parce que notre amie qui parlait juste avant disait, la géographie, c'est une histoire de pied. Il faut savoir que la géographie, c'est la base de ma vie. Je suis née ailleurs, je suis arrivée à Paris à 3 ans, j'ai choisi le Québec à 37 ou 36. Bon, pour moi et pour mes enfants, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, je parle 5 langues. L'ailleurs et l'altérité, c'est la base de ma vie. Je peux pas, je ne me connais pas sans cette altérité. Et donc, il y a quelque chose qui m'est insupportable. C'est tout simplement insupportable. Je ne veux pas le supporter. Donc, j'apprends la langue, donc j'apporte un iPhone, donc je fais des allers-retours. Donc, et la résignation sans laquelle on ne survit pas à Cuba me paraît contre nature, pas seulement la mienne, mais contre nature humaine, en fait.
Ouais.
Et je n'ai de cesse d'abolir des différences. En même temps, il m'écrit quand même quasiment tous les jours et il écrit...
Par le courrier normal.
Des fleuves.
Vous recevez ça par la poste?
Non, il m'écrit des courriels.
Des
tous
courriels.
Les jours,
ah bon, d'accord. Donc il a quand même ce qu'il faut. Ah oui, d'accord.
Absolument. Et il m'écrit des poèmes.
Ah ben oui.
Et des poèmes,
ben oui.
Et des poèmes, ben
oui,
et des
d'accord.
poèmes.
D'ailleurs,
et
il y en a beaucoup. Ben oui.
Et je me dis, c'est incroyable, c'est absolument incroyable. On est rendu là, quoi.
Alors, il y a aussi, à chaque fois, quand on tombe en amour comme ça à l'extérieur, il y a le chagrin de la séparation à chaque
fois.
Ah
oui, oui.
Ça, c'est difficile à vivre.
Alors,
hein.
Ça aussi,
pour l'un comme pour l'autre, d'ailleurs. Hein.
Entre-temps, parce que vous savez, Clotilde, j'ai écrit ce livre-là l'année dernière. Enfin, il est paru en 2016, donc l'histoire, c'est une histoire qui date de 80... de 2015, etc.
C'est très récent, oui.
Oui, c'est très récent, mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres développements, mais j'ai aussi eu le temps de me poser des questions. Or, l'autre chose, c'est que la distance, c'est aussi à la base de ma vie, parce que ma mère est partie quand j'avais 8 mois, parce que j'ai été élevée par ma grand-mère que j'ai quittée à 4 ans pour aller vivre à Paris, à 3 ans, 4 ans, que j'ai reproduit ce modèle-là de la mise à distance et de l'amour à distance, toute ma vie. Et là, je me suis dit, non, ça, c'est pas possible, là, encore une fois. Mais alors, des années d'analyse, de psychothérapie, de blablabla. Bla, bla, et finalement, et lui, il fait la promesse. Il dit, j'ai un syndrome d'abandon fort. Et il me dit, jamais je ne t'abandonnerai. Et cette fois-ci, la distance ne va pas gagner. Et moi, j'y crois.
Ben oui. Ben oui, pas parce qu'on a tous au fond de nous cette espèce de faille là.
Je me dis, cette fois-ci, ça va marcher.
Ben oui.
Ben non.
Et ben non. parce que je voulais que ce soit vous qui le disiez, parce que je voulais pas vendre le truc. Et puis alors il faut dire, parce que l'heure tourne très très rapidement, que au moment où il y a tout ça. Il y a aussi que vous tombez malade.
Oui, alors je vais résumer parce qu'effectivement, enfin, c'est très long à raconter. Et d'ailleurs, j'ai appris...
C'est pour ça qu'il faut lire le livre, Le Cœur Bleu.
J'ai gardé un petit scoop pour vous.
Oui, Aline Apostolska.
Finalement, oui. Alors, je rentre la première fois donc, de Cuba, etc. Et je fais des hémorragies pulmonaires. Et j'en fais une absolument spectaculaire, comme il se doit. Et donc, on fait des investigations. On cherche
on
un cancer,
le pire,
etc.
Oui,
bon. Et finalement, c'est une anomalie. C'est une varice pulmonaire. Et il faut l'enlever parce que un jour... Bon, là, les hémorragies se sont arrêtées. Mais c'est sûr que un jour ou l'autre, elles ne vont pas s'arrêter, donc ça va être fatal. Donc, finalement, il a fallu, au bout d'un an, finalement, m'enlever une partie du poumon. Alors, d'abord, au jour et à l'heure et à la minute où moi, j'ai fait la première hémorragie, lui, il a failli se noyer dans un ouragan, pour de vrai, le même jour, à la même heure. Et
finalement, quand l'opération a été finie et maintenant je suis guérie pour toujours, etc., comme m'a dit le médecin, vous êtes toute neuve. J'ai dit, oh super, 55 ans, toute neuve. Bon, mais c'est vrai en plus parce qu'il m'a sauvé la vie, c'est le cas de le dire. Et ma pneumologue qui avait gardé le meilleur pour la fin et qui avait lu Le Cœur Bleu m'a dit, bon, maintenant je vais vous dire. J'ai dit, ok. Elle me dit, vous savez comment s'appelle cette maladie? Je dis non. Et elle me dit, le cœur bleu.
Ah.
Parce qu'en fait, c'est un influx de sang, d'un résidu artériel. Et bon, là, moi, je n'avais pas vraiment le cœur bleu, oui. Mais il y avait... Et donc, est-ce que vous pouvez croire si je l'avais su à l'avance,
oui.
Alors que moi, je raconte alors dans le livre pourquoi je l'ai acheté comme ça. Je l'ai appelé comme ça pour des raisons très romantiques et un peu sexuelles, d'ailleurs.
Et Cuba, vous l'appelez le pays bleu aussi.
Voilà, le pays bleu, etc., l'île bleue. Et donc, il y a tout ça qui est là. C'est fou, et d'un seul coup, le médecin me dit que la maladie s'appelle comme ça.
C'est fou, hein.
C'est complètement fou. Alors, on sait qu'on écrit avec l'inconscient. C'est l'inconscient qui écrit, et même le cerveau reptilien. Mais là, c'est vraiment... voilà. Donc, on a mis ses poèmes à lui et mon texte à moi.
Oui, c'est ça.
Et puis, j'adore ce livre parce que je voulais le faire. Je l'ai fait pour guérir.
Oui.
Et aussi parce qu'on m'avait interdit de bouger.
Ben
donc, je suis restée dans mon canapé pour faire des tas de choses. Et j'ai écrit.
Alina Postolska, il ne nous reste plus que 2 minutes. Alors, je voudrais rappeler Le Cœur Bleu d'Alina Postolska. Le Cœur Bleu, très touchant. Moi, je l'ai dévoré en deux soirées.
Puis vous aimez Cuba, en plus.
Puis j'adore Cuba, c'est vrai, et je n'en dirai pas plus. Alors, mais je voudrais, on a une petite minute trente ici, 2 minutes. Vous avez participé à ce livre, Faut qu'on en parle, qui est un livre pour les adolescents, pour la jeunesse, où il est question d'homosexualité. Comment on fait quand tout d'un coup on se révèle être homosexuel? Comment on en parle aux parents? Qu'est-ce qui se passe au coming
out? C'est une série qui s'appelle C'est quoi le rapport? Qui paraît aux éditions de l'Homme depuis 2013. Et c'est le 6e tome. Et en fait, avec Marie-Josée Mercier, qui est une psychologue spécialisée dans l'adolescence, on a abordé les enjeux de l'adolescence. Alors, premier amour, sexualité, image du corps, boulimie, anorexie, harcèlement sur Internet, remariage des parents, etc. Et ça, le coming out.
Alors, et ça s'appelle « Faut qu'on en parle ».«
Faut qu'on en parle ». Et donc, moi, je raconte l'histoire parce qu'il y a 4 filles, 4 gars, etc. Et Marie-Josée Mercier donne des conseils.
Des conseils et des trucs.
Et elle essaie de leur passer des notions psychologiques de manière ludique, avec des quiz, etc. Et voilà, c'est une série qu'on a faite à la fois pour aider les jeunes et aussi à titre préventif.
Et c'est une très bonne idée. Faut qu'on en parle. Alina Postolska, qui était avec nous, et Marie-Josée Mercier. Vous savez pourquoi il est moins dur? Non, je vous le raconterai hors ronde, parce que là, je sens que je vais me planter. Il me reste combien de temps? OK. Pourquoi c'est moins difficile d'annoncer à son père qu'on est noir plutôt qu'homosexuel? Non, et ben voilà, je le savais que j'allais la rater. Allez, salut, Aline.
Non, la réponse, c'est... la réponse.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Et c'est la seconde partie, et Alina Postolska est restée avec nous, ne serait-ce que pour une... En fait, elle avait deux bonnes raisons de rester. C'est que, d'abord, elle n'a pas entendu cette histoire que j'ai failli rater, puis ensuite, on s'est pas dit au revoir.
Mais oui.
Oh là, non, c'est vraiment trop bête.
Mais c'est-à-dire que j'ai deux bonnes raisons.
Exactement.
Toi et toi.
Oh, et là, la romancière, l'homme, hein, la femme, c'est ça, la femme de mots, exactement.
L'ami.
Alors, l'ami aussi, l'ami, les mots. Alors, chère Aline, cher Jacques Tremblay.
J'en ai une autre bonne raison.
Quelle est la différence entre une personne noire, donc de couleur, et un homosexuel?
Une jeune personne noire et un jeune homosexuel.
Peu importe.
Non, ou un vieux. Je ne sais pas.
Non, c'est qu'un noir, il n'a pas besoin de le dire à son père, lui. Là, voilà ce que j'avais raté tout à l'heure. C'est comme d'habitude, en seconde partie, je vous lis un extrait du livre dont il a été question. Évidemment, là, c'est Le Cœur Bleu d'Alina Postolska, qui est un livre que je ne saurais que trop vous recommander, ne serait-ce que pour voir... que pour sentir cette Juliette amoureuse de son Roméo cubain, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de son prénom. Il s'appelait vraiment Roméo?
Non, il ne s'appelle pas Roméo et moi, je ne m'appelle pas Juliette.
Non.
Mais c'est le prototype de l'amour impossible.
Ben oui, c'est
et
ça.
Et là, c'est un amour qui est possible, mais impossible pour d'autres raisons. Et donc, voilà.
Oui, parce que là, il n'y avait pas l'affaire des familles et tout ça.
Non, mais elle met les impossibilités politiques.
Oui, c'est vrai.
Géopolitiques.
C'est vrai.
Sont souvent au moins aussi importantes.
C'est vrai. Donc, alors, voilà. Un extrait donc, j'ai parlé de cette impossibilité de communiquer qui vous rendait et qui vous rend de toute façon, en toutes circonstances, très malheureuse. Alors, vous écrivez ici, en page 68, l'impossibilité de communiquer quand on veut. Je ne la comprends pas plus, je refuse de l'accepter. Elle me révolte au moins autant que son impossibilité de sortir de son territoire et de se mouvoir librement où il souhaiterait, avec ou sans moi. Je lui apporte un iPhone. Certaine que nous pourrons alors nous parler et même nous skyper, nous FaceTimer, nous vibrer, c'est quoi ça, nous vibrer,
c'est
nous faire
Viber,
d'accord, celle d'accord, Viber
WhatsApp,
que je connais pas,
etc.
Que je connais pas, nous WhatsAppater, oui. ça d'accord, nous voir en somme face à face en direct. C'est gratuit, tu sais, lui dis-je. C'est réservé à la communauté des possesseurs d'iPhone dans le monde. C'est un monde à part. On va pouvoir se parler quand on voudra. Il me sourit. M'embrasse comme on embrasse une enfant ébahie devant une barbe à papa. Il n'y a pas de Wi-Fi ici, ma chérie. Tu ne comprends donc pas ? On ne va pas pouvoir faire ça, même avec ce téléphone. Je suis désenchantée. Tout à fait. Comment ? Cendrillon n'existe pas ? Et le Père Noël non plus ? Mais quel monde atroce ! Vraiment ! Je ne comprends décidément rien. Je tape du poing, du pied. Mais qui peut donc m'empêcher de parler à qui je veux, quand je le veux, à notre époque de communication instantanée qui fait fi du temps et de l'espace ? Je vous reconnais bien là, Aline. On m'intime simplement d'admettre que le monde n'est pas un village si global qu'on aime à le répéter avec complaisance. Si nombreux sont les exclus de ce village qui fonctionne exactement comme un zoo ou un resort tout inclus. Je le savais, mais le vivre, c'est une autre paire de manches, pour ne pas dire de hanches. Ça, c'était pas écrit. Je tourne la page. Des jours durant, je ne peux ni lui parler, ni lui écrire, ni des textos, ni des courriels. Et je ne reçois aucune nouvelle. Je finis par me persuader qu'il m'oublie, qu'il refuse de me parler, qu'il n'a pas envie que je le dérange. Et pendant ce temps, il rentre seul dans sa chambre et dans son lit et regarde mes photos, écoute en boucle les 400 chansons de mon iTunes copiées sur le sien, comme un amoureux transi du 19e siècle. Et puis il finit par avoir la communication et il m'écrit pour me dire combien il souffre de ces échanges aléatoires entre nous. « Qu'est-ce que j'y peux ?» me dit-il. « C'est moi qui dois attendre. C'est moi qui suis ici à t'attendre sans jamais savoir quand tu vas revenir ni comment. » Je ne peux que me conformer à ce qui est possible ici et aussi à ce qui est possible pour toi. Je vis dans un pays où il faut sans cesse accepter d'être impuissant. Hein ? Cuba. Ben oui. Ben oui. Oh, je sens que quand même, hein, quand même. Oh là 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 là. Allez, on va passer tout de suite
c'est
à autre
écrit,
chose.
C'est bien écrit, hein ?
Ah, c'est bien. Aline Apostolska, elle ne changera jamais. Le cœur bleu, je vous le rappelle, courez pour aller vous chercher ce livre-là, disponible bien sûr via le SQLA ou le CAEB à l'intérieur de tout notre grand pays d'Est en Ouest ou via le SQLA pour le Québec. Jacques Tremblay, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Pas beaucoup d'amour, vous, je pense, dans le livre dont vous nous parlez aujourd'hui.
Oh non, pas beaucoup.
Non, qu'il dit, oh non.
Beaucoup de
Est-ce
haine.
Est-ce que ça communique?
Beaucoup de haine. Oui, hein.
Mais ça communique avec des codes.
Avec des codes.
On va parler d'un polar.
C'est rare que vous nous arriviez avec un polar comme ça.
Je pense qu'une des dernières fois, c'était un Joël Dicker qui était, il y a peut-être un an et demi,
oh, oui.
là, que j'avais raconté,
oui,
qui
oui,
était
oui,
vraiment
oui,
du très grand roman,
oui.
du très grand polar d'un jeune écrivain.
Oui,
en fait, c'était,
oui,
c'en
oui,
était
oui,
son
oui,
premier. Et
oui.
d'ailleurs, celui dont je vais parler aujourd'hui est également le premier d'un auteur suédois du nom de Stefan Hanheim.
Qu'est-ce qu'ils ont
H-N-E-H-E-M. Je ne sais pas ce qu'ils ont là-bas.
Qu'est-ce qu'ils ont tous, ça, c'est vrai.
C'est la nordicité.
Mais oui,
ben
le
c'est la froideur, probablement la capacité de faire des analyses froides et
oui,
glaçantes
hein. ouais.
de certaines réalités et même de les amplifier. Parce que je dirais que ce hors-cadre que j'ai enregistré il y a peut-être trois mois et demi qui est disponible depuis quelques semaines. C'est un roman haletant, si vous voulez. Ça dure un peu longtemps, là.
Oui, c'est il est long. Ça, ouf, ça a l'air
500,
d'être écrit.
550 pages, là,
écrit
donc
petit.
Probablement 20-quelques heures d'écoute, là.
Oui, oui.
Mais pour les quelques personnes qui l'ont lu depuis que moi je l'ai lu, chacun s'en sort indemne, mais avec... En fait, c'est le personnage, comme les personnages des romans policiers de ces dernières années, le héros, qui s'appelle ici Fabian Risk.
Ah, ben au moins, c'est prononçable, parce que parfois...
Oh oui, mais je ne vous donnerai pas les noms des lieux, des rues, parce que ça, c'est un véritable casse-tête. J'espère qu'il n'y aura pas trop de connaisseurs du suédois qui écouteront.
Mais non. Que les Suédois nous jettent la première pierre. Tiens.
Voilà. Alors, Fabian Risk, c'est le prototype de l'enquêteur des derniers romans. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est un peu perturbé, un peu dérangé. C'est quelqu'un qui doit changer d'affectation. Il quitte Stockholm parce qu'il a vécu un événement très traumatisant, apparemment, qui l'empêche de fonctionner normalement. Et donc, il doit se déraciner et aller travailler en région. Donc, il va quitter Stockholm, il va se rendre dans le sud. De la Suède, précisément dans le bled où il a grandi quand il était petit. Bon, alors il va déménager, sa femme, ses enfants, ils vont s'installer, ils sont très contents parce que là, il va enfin commencer à respirer, 6 semaines de vacances, il lui reste quelques années avant sa retraite, et donc on va lui foutre la paix. Sauf que le jour de son arrivée dans son petit village, sa nouvelle chef, qui est une femme, l'appelle et lui dit « Il faut que vous vous intéressiez à ce meurtre. » Non, écoutez, foutez-moi la paix, j'ai 6 semaines, est-ce que je peux respirer un peu? Non, il faut que vous veniez. Et alors, on apprend que le meurtre dont on parle, c'est un double meurtre impliquant 2 personnes qui étaient ses collègues de classe en septième ou en secondaire 3. Ah bon? Alors là, il s'adonne que ces 2 personnes-là ont été martyrisées au moment d'être assassinées et qu'on a laissé sur les lieux la photo de classe de son secondaire 5, supposons, et où les 2 têtes des personnes assassinées font l'objet d'une croix. Autrement dit,
Autrement dit, on peut supposer que ça ne fait que commencer.
Et ça arrive précisément au moment où lui est nommé inspecteur dans sa ville. Et on comprendra au fur et à mesure du roman que l'assassin, le coupable, dans le fond, le cherche, ce cher Fabian Risk. Autrement dit, au fil du roman, les 25 collègues de classe de cette secondaire 5-là vont tous tomber un après l'autre.
Les autres.
Et il ne restera à la fin que Fabian Risk. Et donc, c'est comme une espèce de duel où, à tout moment, on comprend qui est l'assassin. Ah, on sait qui est l'assassin. Jusqu'à ce que celui qu'on croit être l'assassin soit assassiné. Ah, donc, ça doit être un autre. Et alors là, les mobiles jouent. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi cette haine?
Parce qu'en plus,
ça...
on doit les protéger. Parce que là, à un moment donné, là, quand on les voit tous là, descendre les uns, on doit protéger ceux qui restent. Et malgré tout,
et là, on comprend toute la subtilité de l'assassin. L'assassin est un être énormément créatif, un grand spécialiste des communications modernes, là, donc qui contrôle électroniquement tout un système, tout un réseau de communication. C'est probablement pas un cubain, mais il y a accès au Wi-Fi. Ça, c'est sûr. Il est très créatif dans sa façon d'assassiner les personnes au point où il peut faire croire à un accident absolument pur, un pur accident de la part d'une des personnes qui est assassinée par une combinaison de technologies qu'il met en place pour... doubler la personne sur l'autoroute, etc. Les détails ne seraient pas racontables, il faut les lire. Alors, donc, ce personnage-là, cette confrontation-là fait en sorte que le policier, un autre fait qu'on retrouve souvent dans les polars contemporains, c'est que ce policier-là se met à un moment donné tout le monde à dos. Son patron, on le retire de l'enquête, il est trahi les policiers danois ne veulent pas coopérer avec lui, il fait des petites gaffes, mais c'est un bon fait. Et donc, cette tension-là, cet humanisme-là, sa femme, à un moment donné, n'en peut plus. On devait avoir 6 semaines pour nous, pour se retaper. Non, on ne l'a pas, 6 semaines. Excuse-moi, chérie, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Bon. Alors, finalement, elle s'éloigne. Le fils, lui, veut rien savoir de son père. Lui, il écoute juste sa musique et puis il ne répond même pas au téléphone. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne peut pas répondre au téléphone parce que là, ça se... dire ça. Bon, alors bref, un roman assez poignant, assez haletant, facile à lire, sauf les sacrés mots suédois.
Est-ce que ça s'apporterait bien sur une plage à Cuba, ça?
Ben, en tout cas, ça se lirait bien. C'est pas trop dramatique. Ça va pas chercher votre fort intérieur. Ça fait pas votre psychanalyse. Ça vous invite à faire la psychanalyse des autres.
Et la traduction est bonne aussi. Il y a pas de.
J'ai eu beaucoup de facilité à la lire.
D'accord.
Ouais, on dit d'ailleurs, je sais pas si c'est pour conclure, mais on dit de cet auteur que c'est. On songe à Mankell.
Ah, ben oui.
Son meilleur.
Oh!
Bon, c'est bon. Hein, oui. Un thriller c'est la de haute volée qui annonce l'arrivée d'un nouveau talent dans la galaxie du polar suédois.
Alors, j'espère qu'il ne mourra pas aussi jeune que Annie Mankell, quand même.
Ça dépend beaucoup qu'est-ce qu'il va faire de sa vie.
Ben oui. Ah, ben oui, c'est possible. C'est possible. Aline Apostoska, elle est restée avec nous, Aline. Hein.
Oui,
généralement, tout le monde est très, très pressé de partir.
Oui.
Parmi les concepts qui sont traités là-dedans, il y a celui du harcèlement, harcèlement au niveau de l'école. On comprend à travers plusieurs passages qui sont mis en italique et qui reprennent le journal intime de l'assassin à l'époque où il était à l'école secondaire et où il décrit un peu comment il est victime de harcèlement. On le traite de PD, il rentre chez lui, il se fait harceler. Et déjà à ce moment-là, dans son journal, on sent qu'il a une personnalité vengeresse, essentiellement vengeresse.
D'accord.
Alors c'est une immense vengeance.
Ah oui, hein. Ben oui. Oui, parce qu'ils sont combien dans la classe au début?
Une trentaine.
Oh,
il y en a une vingtaine qui tomberont
au champ d'honneur. Au champ d'horreur. Au champ d'horreur, voilà. On va dire. Eh bien, Jacques Tremblay, merci beaucoup parce que ça donne envie. Un bon petit polar, là, de temps en temps. Ça fait du bien. Ça s'appelle Hors cadre. Et c'est un polar suédois signé Stéphane Hanem. Ça s'écrit A-H-N-M. Pardon, je recommence. A-H-N-H-E-M, Anem. Voilà, oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de « i » là-dedans. Merci beaucoup, Jacques Tremblay.
Un grand plaisir.
Ça vous a fait... Oui, mais puis ça a dû vous faire du bien de lire un petit poil là.
Oui. Parler dans quelques mois de Marie-Claire Blais.
Oui, parce que vous êtes le spécialiste
ici. Qui me séduit de plus en plus, son nouveau roman de 225 pages.
Oui.
La dernière fois, il y avait 17 phrases, vous vous rappelez?
Oui, 17
phrases.
Cette
fois, il y en a une.
Oh.
Une phrase.
C'est pour ça qu'ils vous l'ont donné. Oh, ça, c'est pour Tremblay.
Mais
ça.
Je la découvre, cette femme.
Oui, elle est fantastique.
C'était son pari. Hein. Vous savez qu'au début, elle était partie pour écrire une trilogie qui est devenue un décalogue et qui se poursuit et dont l'objectif était de parvenir à finir par ne faire qu'une phrase qui courrait d'un bout à l'autre du livre. Le départ, dans la série, il n'y a pas de ponctuation. Puis il y en a de moins en moins, de moins en moins. Et là, finalement, plus du tout.
Dans le précédent, il y avait des points-virgules des points. Dans celui-ci, je n'ai toujours pas rencontré de points-virgules et j'en suis aux trois quarts du livre.
Non, mais c'était son objectif
virgules.
De départ. Et ce n'est pas évident à réussir. Ça lui a pris quand même 12 romans. Alors qu'elle devait en faire trois au départ.
Mais j'ai hâte de relire Nuit, qui est justement la première où son
Jacques, on va se donner rendez-vous en septembre.
En septembre.
Je ne sais
pas. Chiche.
On va enregistrer ça sûrement vers la fin du mois d'août. Puis en septembre, vous venez nous parler de Madame Blais. Merci beaucoup, Jacques Tremblay. Passez une très belle fin de journée. Si vous voulez rester avec nous, ne vous gênez pas.
Merci à tout le monde. Je voudrais dire au revoir et merci.
Oui, ben de rien, Aline. Comme je ne savais pas si vous alliez rester ou pas, moi, ça y est, là, je tenais pour acquis que vous alliez rester.
Absolument, avec grand plaisir. Merci beaucoup.
On va parler d'un petit jeune qui débute, Céline.
Ah.
Pourquoi Céline? Parce que, d'abord, il n'en a jamais été question à cette émission. Et parce que je suis tombée, au hasard de mes recherches, sur un éditorial signé Pierre Assouline dans le magazine littéraire. Assouline est un fan total de l'œuvre de Céline. Et
comme Lucchini.
Oui, c'est ça, exactement. Et là, il est complètement outré parce qu'il y a deux personnes qui s'appellent Annick Durafour et Pierre-André Taguieff qui ont signé une brique de 1182 pages chez Fayard pour dire tout le mal qu'il pensait de Céline. Alors, Assouline a donc écrit un éditorial sur le sujet. En voici quelques bribes. Donc, il écrit ceci. « Encore Céline ». Encore, point de suspension, à croire qu'on n'en finira jamais avec lui. Sauf que cette fois, c'est autant de l'homme et de l'œuvre qu'il s'agit que de l'immense cohorte de ses fidèles lecteurs confondus pour les besoins de la cause en autant de céliniens, célinologues, célinomanes, célinolâtres. Heureusement qu'il ne signait pas des touches, de dire à Souline. La cause, c'est celle de Pierre-André Taguieff et d'Annick Durafour, deux universitaires qui ont consacré énormément de temps, d'efforts, d'énergie à effectuer des recherches sur un homme qu'ils vomissent et sur une œuvre qui les indiffère. Une telle attitude, écrit à Souline, qui n'est pas si courante en histoire littéraire, relève d'une psychologie qui nous échappe. Leur projet s'inscrit en gros caractères sur la couverture de leur pavé, moins dans le titre. Céline, la race, le juif, que dans le sous-titre, légende littéraire et vérité historique. Aïe, aïe, légende littéraire quand même, ça fait très mal. Ainsi, dans la France de 2017, dit à Souline, il se trouve encore des chercheurs réputés pour prétendre détenir la vérité historique sur un sujet. C'est qu'ils ont vraiment pris au sérieux toutes ces élucubrations, ces délires, ces inventions. C'est qu'ils ont vraiment tout vérifié, voyez-vous. Une telle naïveté ne donne déjà pas envie d'y aller voir, car leur démonstration est épaisse d'un bon millier de pages. Et on y va tout de même. Et dès la page 42, dans les dernières lignes de la préface, on lit cette énormité doublée d'une ânerie. On ne saurait considérer que l'écrivain, parce qu'on lui reconnaît du génie, a toujours raison. Il n'a pas non plus tous les droits, à commencer par celui de mentir. Comme si, reprend Assouline, les lecteurs de Céline lui donnaient raison. Comme si un romancier n'était pas fondamentalement gouverné par le mensonge. En revanche, il y a une chose que les essayistes n'ont pas le droit de nous imposer. C'est un pavé aussi indigeste, confus, bavard et in fine. Ce qui veut sûrement dire...
In fine.
In fine. Ah, en fin de compte, mais in fine, remarque, je ne sais pas trop où ça
c'est. In fine.
D'accord. Illisible. On s'interroge sur ce que la littérature a bien pu leur faire pour qu'ils manifestent ainsi tant de mépris à son endroit. Leur postulat est clairement affiché, ils ne se demandent pas, contrairement aux Pékins que nous sommes, comment l'admirable auteur du Voyage au bout de la nuit a pu écrire ses appels au meurtre, mais plutôt comment l'ordurier pamphlétaire a pu écrire Voyage au bout de la nuit. Alors armés de cette idée, à proprement parler renversante, ils ont épluché tout ce qui a été publié sur le sujet afin de prouver que Louis-Ferdinand Destouches était un être vénal, que les Allemands l'avaient payé, qu'il était au courant de l'existence des chambres à gaz et qu'il mouchardait à tour de bras. Il est vrai qu'il a même dénoncé Racine et le pape, mais il n'avance guère de preuves. Salaud, Céline ? Oui. Il aurait même mérité le titre de président à vie du Racisme Club de France. Cynique, misanthrope, arriviste, inhumain, égoïste, opportuniste tout autant, et alors ? Demande à Souline. Lui au moins n'a pas attendu l'occupation pour cracher son venin antisémite. Dès les années 30, on savait à quoi s'en tenir avec lui, mais cela n'enlève rien au génie de l'auteur de « Mort à crédit » et de sa capacité à dynamiter la langue française dans la lignée d'un Rabelais. Alors voilà, j'ai eu envie de vous lire ces quelques bribes-là, parce que c'est un papier, un édito qui est beaucoup plus long. Aline, vous vouliez dire quelque chose?
Je voulais juste rappeler qu'entre les artistes et leur œuvre, il y a parfois des ponts, parfois des viaducs, parfois des autoroutes et très, 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 très souvent des gouffres. Et parfois, il vaut mieux pas aller connaître la personne derrière. Tous les très nombreux admirateurs de Céline ont tous des très gros problèmes avec son antisémitisme.
Il ne le réfute pas. Il est bon, voilà. Non.
Mais personne ne le réfute. Moi, je voulais juste vous dire qu'il y a une émission sur France 2 qui est l'émission animée par Léa Salamé qui s'appelle Stupéfiant. Qu'on peut regarder sur Internet, sur YouTube. Et elle a fait un numéro spécial sur Céline et ce livre-là. C'est intéressant de voir les autres personnes. C'est intéressant d'écouter Loukini aussi parler qu'il a, il est, parce qu'il adore Voyage au bout de la nuit. Puis bon, c'est vrai que ce portrait de New York est exceptionnel et unique, quoi. Et qu'il a essayé par tous les moyens de lui trouver, d'oublier qu'il était antisémite sans y arriver.
Non, c'est ça.
Mais Molière couchait avec sa fille, et puis on peut, la liste est longue.
C'est ça. Et regardez, on en a une qui est tombée en amour avec un Cubain, là,
Oui, bien sûr, absolument. Et puis alors ça, c'est juste la partie immergée de mon iceberg.
D'accord. Merci, Aline Apostolska. Juste aussi parce que c'était le but de la chose. Si vous n'avez jamais ouvert de livre de Céline, c'est peut-être le temps, justement, de, oui. d'écouter du Céline. Ont été enregistrés par INCA, Féerie pour une autre fois, Mort à crédit et bien sûr, l'incontournable Voyage au bout de la nuit. Touche magique que celle d'Alain Lefebvre que j'ai réussi à attraper dans mes filets pour la semaine prochaine. Il va venir avec, non pas son biographe d'ailleurs, parce que George Nicholson qui a signé ce portrait se défend bien de ne pas avoir signé une biographie, mais bel et bien un portrait d'Alain Lefebvre que nous écoutons en ce moment. Alain Lefebvre, faut-il le repréciser, pianiste-compositeur, c'est du moins ce qu'on écrit sur la quatrième de couve que la carrière conduit sur les plus prestigieuses scènes du monde. J'ai un petit extrait à vous proposer en page 73 ici, parce que vous savez qu'il a deux grandes passions, Alain Lefebvre, et c'est ce qui fait de lui un homme si touchant. Il y a cette passion pour la musique, pour le piano, il y a une passion pour sa femme, qu'il a épousée il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Et donc, ça parle de sa femme, qu'il appelle Jojo, parce qu'elle s'appelle Joanne. Il n'y a qu'une seule chose que Jojo demande à Alain Lefebvre, ne jamais laisser le doute ni l'amertume s'installer, parce que le doute, chez un artiste, ça tue. Avec les communications instantanées, les attaques peuvent être sournoises, anonymes et destructrices. Et chez un être sensible, fissurer les fondations, toujours diaphanes de son métier. C'est la seule chose que je lui demande, ne jamais douter. N'oublie jamais que ton art est un diamant. Lors d'une rencontre avec Denise Bombardier pour son émission « Parlez-moi des hommes, parlez-moi des femmes », Lefebvre provoque l'incrédulité et enfin l'admiration de l'admiratrice. En lui disant « La plus belle chose que je pouvais faire, c'était de réussir mon mariage. » La seule fois où Jojo ne l'a pas accompagné en tournée, c'était au Japon il y a des décennies, « because » les budgets. On propose à Alain, des filles et le jeune homme de refuser parce que « être bien amoureux, c'est la vraie liberté. La fidélité ne vous pèse pas du tout. Il y a une question spirituelle dans l'amour, c'est la quête, c'est le regard dans le même esprit. Moi, je monte sur scène parce que Jojo est là. » Je ne suis pas bon sur scène parce que je suis bon sur scène. Je joue parce que j'ai ma femme, parce qu'elle est là, parce qu'elle me porte. Je suis le résultat de mon amour. Et cet amour est si fort et si entier qu'Alain se pose la question simplement, est-ce que je peux survivre à Jojo ? Alors ne manquez pas hein, cette émission des livres plein les oreilles la semaine prochaine avec ce type tellement émouvant. On comprend pourquoi aussi sa musique hein, en tant que pianiste nous touche à ce point-là, Alain Lefebvre. Allez, j'ai quelques titres en rafale pour vous. Heaven, comme le ciel, si je ne m'abuse, de Miko Kawakami. Kawakami, Kawakami. Deux opprimés, deux adolescents. L'un brimé par un défaut physique, l'autre pour son apparence volontairement négligée, subissent la violence des élèves du collège. Mais nous sommes au Japon. Alors, c'est un livre, je ne sais pas qu'Aline connaît peut-être, mais l'ambition littéraire, nous dit-on ici, de Miko Kawakami se confirme. Auteur de la prise de risque et de la maîtrise de son propre style, elle offre ici au lecteur un regard sur les concepts d'identité, de sujet et de bonheur qui bousculent et décapent la tradition intellectuelle occidentale. La colère m'a sauvé la vie, alors cessez de la refouler, faites-en votre allié, a écrit Céline Legault. Et dans le Huffington Post, j'ai trouvé ce papier de José Durocher qui dit que ces jours-ci, les médias s'arrachent Céline Legault, coach professionnel certifié, conférencière ainsi qu'auteur, et pour cause, parce que ce tout premier livre intitulé « La colère m'a sauvé la vie, cessez de la refouler, faites-en votre allié » suscite beaucoup d'intérêt chez nos amis des médias. Femme authentique, rieuse, franche et capable de vulgarisation, n'ayant pas peur de dire la vérité, Madame Legault s'exprime sur le phénomène qu'est la colère, un tabou chez nous. La colère est un signal d'alarme, écrit-elle. C'est le signal que nos valeurs ne sont pas respectées, que ce soit par les autres ou par nous-mêmes. En fait, la colère est la gardienne du respect de soi-même. Ce sont les phrases clés à retenir que Céline Legault nous enseigne dans ce livre et dans la vie.
Ici.
Et Aline ?
C'est pas un livre pour les Français, hein.
Parce ah non,
on est au courant.
Je voudrais vous proposer un livre que j'ai proposé à Boucardiouf quand il est venu ici, lui qui aime tellement les arbres, Les Contes des Sages Gardiens de la Terre de Patrick Fishman. Pour donner vie à ces Contes des Sages Gardiens de la Terre, Patrick Fishman a composé un hymne à la nature qui fait corps avec l'être humain, nous dit-on. En fait, c'est une compilation de contes internationaux, mais on va jusqu'aux Inuits, on va C'est extraordinaire et le sujet principal, c'est l'arbre. Et c'est de toute beauté. Vraiment, tout est beau dans ce livre que je vous recommande. Vous pouvez l'ouvrir à n'importe quelle page et c'est absolument sublime. Conte des sages gardiens de la terre. Alors voilà, je voudrais remercier mes invités Bernard Tremblay, Jacques Tremblay et également Aline Apostolska. Merci Aline d'être restée jusqu'au bout, même s'il n'y avait pas un petit verre de vin, parce qu'ici il n'y en a pas.
Non, merci beaucoup à toi Clotilde.
Merci Aline, vraiment j'ai été très très touchée et ne ratez pas le cœur bleu d'Aline Apostolska. Merci Jean-Sébastien Laliberté, à la semaine prochaine.